volume sur 11, un podcast d'Antoine Dubuquois. De la musique avant toute chose. Ça, c'est Verlaine qui l'a dit. Avec le volume sur 11, ça, c'est Spinal Tap. On n'a jamais autant produit de musique qu'aujourd'hui. Pour les artistes, c'est loin d'être simple de se faire connaître dans tout ce bruit. Dans le volume sur 11, je vais à la rencontre des artistes, à la découverte de nouveaux noms et de nouveaux sons. Dans chaque épisode, une nouvelle rencontre. Il y aura de la pop, du rock, de l'électro, du métal, du punk, du rap, tous les genres. Ouvrez vos chakras, on commence.
Mon invité dans le volume sur 11, Lula Borgia, l'âme et l'inspiratrice du projet musical Venin Karma, qui a sorti son troisième album en octobre dernier. Bonsoir Lula, bienvenue au volume sur 11.
Et bonsoir.
J'ai une première question qui est, le pourquoi du comment. Pourquoi Venin Karma? Quelle est l'origine du nom du projet?
C'est une première question parce que c'est secret. Ça, on ne saura pas.
Eh bien, c'est super. Non,
mais c'est personnel.
C'est une réponse en soi. Alors, justement, parle-moi de ton parcours musical et qu'est-ce qui t'a amené, en fait, à lancer Venin Karma?
Mon parcours musical, c'est assez... je pense que c'est le même que beaucoup de personnes. Moi, je n'ai pas fait le conservatoire, tout ça. J'ai commencé la musique... j'ai fait du piano, j'ai commencé des groupes à l'adolescence et des groupes divers. Allant de la pop à l'électro-rock et un jour, j'ai commencé à vouloir faire quelque chose toute seule. Et c'est là qu'est né Venin Karma, en fait, en laissant sortir un petit peu les influences plus sombres que j'avais de la musique que j'écoutais ou pour trouver quelque chose qui me correspondait davantage à moi, voilà. Ouais. Et je me suis mis à la compo et c'est comme ça qu'est né Venin Karma, là.
D'accord. Alors, t'as un son qui est dark wave, qui est un peu goth, quelque chose qui est très, très années 80. Qu'est-ce que t'écoutais, en fait, comme musique? C'est quoi tes influences musicales?
Je saurais pas trop dire parce que c'est, en vrai, j'écoute vraiment des tas de choses, mais je crois que, plutôt que de citer des groupes, parce que sinon on n'a pas fini, j'écoute des tas de choses, mais je pense que ce qui se retrouve dans ma musique, c'est peut-être le côté un peu DIY des années 80, quelques sonorités, clairement, influencé, là je vais en citer un, par Depeche Mode, bien sûr, mais un côté aussi très, très pop. Et je crois que ce qui... c'est les années 80, c'est les années... la jeunesse de mes parents, c'est ce qu'ils écoutaient eux plutôt. Et du coup, en fait, moi, ce que j'aime bien dans cette époque, je suis attirée par les contrastes de manière générale. Et les années 80, je sais pas si c'est pour ça que ça me plaît, mais il y avait cette espèce de pop très légère et de noirceur totale avec les années sida, ce genre de choses. Et je sais pas ce que ce mélange a donné, mais en tout cas, ça a donné quelque chose d'assez unique et identifiable et qui m'a peut-être influencé, mais comme les années 90 aussi, d'ailleurs, quoi, en fait.
Ouais. Et quel a été ton premier grand choc musical? Est-ce qu'il y a eu un déclencheur? Directement, tu as baigné dans une ambiance de la musique qu'écoutaient des parents, des sons et autres. Mais ton premier vraiment grand choc musical, soit qui t'a déclenché cette envie de composer, de te lancer?
Je sais pas. Parce que il y a plusieurs choses différentes là dans ta question. Il y a mon premier choc musical et après ce qui m'a donné envie de composer. Ça a rien à voir. Moi, mon choc musical, je crois que j'étais vraiment toute petite et c'était Pierre et le Loup, quoi. Parce que c'est absolument génial pour comprendre les émotions à travers la musique. Vraiment, c'est un apprentissage extraordinaire. Et après, ce qui m'a donné envie de composer, je pense que c'est plus quelque chose que j'avais en moi et que j'ai pas su faire sortir autrement qu'avec de la musique, voilà.
Ouais. Et qu'est-ce qui t'inspire justement dans tes textes, dans ta musique, dans l'univers en fait, Venin Karma, qui est très graphique, je vois les pochettes des albums.
Musicalement, je pense que ce sont de l'ennui beaucoup. Je me suis beaucoup ennuyée quand j'étais jeune et peut-être la solitude aussi et la frustration, beaucoup d'émotions Enfin, je crois que ce sont les émotions désagréables qui m'inspirent dans la composition, telles que la colère, la tristesse, ce genre de choses. Je trouve ça difficile d'écrire sur la chance qu'on a, le bonheur, ou ce genre de... Enfin, voilà, c'est... En tout cas, je n'y parviens pas. Il y a des gens qui arrivent mieux que moi. Mmh. Et graphiquement, j'avoue que c'est... tu me poses des questions que je ne me pose pas trop. mais que... je ne sais pas. Là, j'étais sur... j'aime beaucoup l'art... enfin, de manière générale, l'art classique, même toutes les formes d'art, je suis sensible. Je suis sensible à tous les médiums d'expression. Et je n'ai aucune formation artistique. Je n'ai pas fait les beaux-arts ou quoi que ce soit, si on parle d'art visuel. Ouais. Et je réagis juste à ce qui me touche, quel que soit le propos. La pochette de l'album précédent, il s'agissait de Lucrèce, d'un tableau de Lucrèce qui était exposé aux Beaux-Arts de Lyon. Oui. qui m'avait marqué, ouais. Tant par rapport à l'histoire qui était terriblement d'actualité, je trouvais encore, mmh. et que par la beauté du personnage et le désespoir qu'elle qu'elle faisait transparaître dans son geste où elle se tue. Mmh. Et quant à la pochette de Toxic Legends, le dernier album, eh bien là c'était ça a été facile instinctivement avec une couleur qui a été le guide et après différents éléments de composition le moi les enfin avec ma radio des poumons les aspirations la noirceur et la beauté je pense ouais. que c'est ça que je veux retrouver dans cette pochette ouais.
Et comment tu travailles ça, quel est ton processus créatif, qu'est-ce qui vient en premier, c'est la musique, c'est les mots, c'est
voilà, là je crois que j'ai aucune discipline, je ouais. j'ai des milliers de mélodies là, si tu te montrais mon ordinateur, j'ai des milliers d'ébauches de chansons.
Ouais.
Et à côté, j'ai plein d'ébauches de textes ou de phrases qui me plaisent. Et des fois, à partir d'une phrase, je vais écrire toute une chanson qui ne sera pas mise en musique. Et après, je vais essayer de faire matcher un peu ce que j'ai, tu sais,
d'accord.
ensemble. Ou alors, des fois, ça arrive. Il y a des fois où tout va d'un coup, on commence par la musique et puis les paroles suivent comme ça d'un coup, magnifique. Mais sinon j'ai mes bidouilles d'un côté et de l'autre, ouais.
Ouais. Et tu composes quoi, au clavier ou guitare? Comment ça fonctionne? Toi t'es bassiste, tu joues de la basse sur scène?
En live je suis bassiste, mais effectivement pour composer je me mets au clavier, soit je compose directement le rythme à la boîte à rythme parce que je me dis je vais partir là-dessus, je veux un morceau mid-tempo ou quoi, ou alors je fais à la guitare pour plaquer les accords pour avoir déjà la mélodie, et après j'agrémente autour de ça. Des fois ça part d'une ligne de basse, des fois ça part d'un riff de synthé, et des fois ça part de la mélodie de la voix où là je m'accompagne à la guitare pour ou au synthé façon piano parce que c'est plus facile de s'accompagner comme ça, mais voilà. Puis je m'impose pas une discipline vraiment là-dessus, ça je devrais.
Il y a une atmosphère assez, assez dark dans les titres, si je prends le dernier album, The Girl You Kill, Like I'm Dead, l'album précédent s'appelait Constant Depression, il y a quand même quelque chose de Welcome to the Masquerade, c'est sombre tout ça.
Oui, mais je ne suis pas quelqu'un de... je ne suis pas quelqu'un, j'allais dire, de très joyeux, mais... Je suis quelqu'un d'anxieux. Je fais ma thérapie avec mes albums un petit peu et avec mon psy aussi. Mais me nourrissant de contraste, j'aime bien dire, j'allais dire des horreurs, mais aborder des sujets sérieux de manière qu'on pourrait croire légère. Car vois-tu, lorsque nous avons eu une interview à la radio et les personnes qui nous ont interviewé, c'est une radio en France. On trouvait que le dernier album, Toxic Legends, était très joyeux, très poppy. Alors, je pense pas que, du coup, il soit attardé sur les paroles, parce que Parce qu'elles ne le sont pas, mais c'est pas grave, ça n'empêche pas. Enfin, ils ont apprécié l'album et tant mieux. Mais tu vois, c'est ce que je te disais quand j'aime bien me nourrir de contrastes. Je trouve ça intéressant de. Enfin, de toute façon, j'ai une voix pop et je peux pas faire autrement. Et quoi que je chante, ça aura toujours ce côté poppy, tu vois.
Oui, c'est ça. Oui, t'as pas une voix dans les graves.
Ouais. Voilà, j'aime bien le trancher avec ces atmosphères-là. Avant, j'aurais adoré chanter. J'aurais aimé chanter avec une voix très grave. Je voulais absolument coller à cette scène dark, tu vois. Et pour les albums précédents. Et en fait, au bout d'un moment, je me suis fait une raison et que j'y arrivais pas. Et tant pis, ça a été un petit peu plus dur, mais c'est comme ça. Et je suis contente de m'être affirmée un peu plus. Mais tout est composé la plupart du temps à partir d'un riff de basse. Il y a beaucoup plus de basse dans mes morceaux et que la ligne de basse est primordiale. Elle est rarement, elle appuie les fondamentales. Elle est centrale. Elle a un peu un rôle de guitare, du coup, au final, cette basse.
Ouais, ce qui est assez typique, en fait, de la musique new wave et post-punk, où il y avait vraiment une basse qui était prédominante.
Oui, c'est très juste, oui.
Ouais. Si on monte un peu dans le temps, quel est le premier album rock que t'es acheté ?
Je sais plus du tout, parce que j'ai eu la chance de grandir avec des parents qui écoutaient beaucoup de musique. Il y a toujours eu de la musique à la maison. Ouais. Et ils m'en ont toujours offert. Je me souviens qu'ils m'avaient offert. J'étais petite. Alors l'album était sorti il y a longtemps, mais ils m'avaient offert Smashing Pumpkins, tu vois. Moi, pour écouter toute cette musique-là, je suis allée chercher dans les albums de mes parents, parce que c'était eux qui écoutaient Nirvana, tu vois, donc j'ai eu cette chance-là, j'ai eu la chance que ça me plaise, surtout, parce que peut-être que,
Oui, t'aurais pu faire un rejet, effectivement, ouais.
Oui, voilà, tout à fait.
Et c'est eux qui t'ont emmené à ton premier concert, est-ce qu'ils t'ont emmené à des concerts, ou alors c'est...
Bien sûr.
Ouais, le premier concert où t'es vraiment allé voir un concert, là, il y a... t'appelles dans tous les sens, c'est vraiment...
Alors, j'étais vraiment petite, et mon premier concert dont je me souviens, c'était IAM, groupe de rap, parce que j'écoute vraiment de tout, et c'était génial. Voilà. Donc voilà, tu vois, rien à voir, c'est pas du rock que j'ai vu en premier.
Oui, mais IAM sur scène, t'en vois quand même.
Oui, complètement. Et puis j'ai grandi dans le sud, moi. C'est presque une religion. Hein, bah, oui, bien sûr.
Est-ce que là, tu sais, il y a 4 ans, on a eu la. C'est 4 ans déjà, il y a eu la période du confinement. Je sais que pour beaucoup d'artistes, ça a été une espèce de pause très compliquée avec pas de live, etc. Est-ce que toi, c'est une période qui t'a impacté particulièrement? Est-ce que ça a été une source d'inspiration
Ça a été... Alors oui, j'ai bidouillé des choses dans mon coin, mais ça a été une grande source de frustration, surtout car... notre album Constant Depression, qui a jamais aussi bien sorti son nom, est sorti en plein Covid. Donc, toute la tournée qui avait été prévue a été annulée. Il a fallu en monter une autre par la suite. Donc, ça a été frustrant, mais ça a été l'occasion de me dire que c'était vraiment ce que je voulais faire et que ma motivation de musicienne ne s'est pas étiolée avec l'impossibilité. L'impossibilité de tourner, bien au contraire.
Et autre sujet, c'est être une femme dans le milieu de la musique. Il y a pas mal de choses qui ont été dites, il y a eu le mouvement MeToo, il y a eu des révélations de mauvais comportements de mecs et tout. C'est plus dur quand tu es en tournée, quand tu montes sur scène, la réaction du public, tout ça, c'est
ben, fort heureusement, ça change pour ce qui est des mauvais comportements. Ça peut s'expliquer par le fait qu'il y ait eu ce mouvement, par le fait que, enfin, il y a eu, je l'espère, une prise de conscience qui fait que eh bien, peut-être certaines personnes ont changé leur façon de faire. Peut-être qu'on a laissé aussi l'accessibilité à des postes décisionnaires tels que la programmation à des femmes aussi, peut-être un peu plus, qui est peut-être aussi une nouvelle génération qui arrive. Et enfin, et surtout, à la formation dans les salles de concert, aussi bien pour les personnes qui programment, qui accueillent, qui organisent, etc. Après, j'ai eu une colère pendant longtemps et qui était tout à fait légitime et cette colère, je l'ai toujours, mais je fais confiance maintenant parce que j'ai déjà vu des changements. J'étais très en colère, effectivement. Il y a 4 ans, j'étais beaucoup plus en colère. Ouais. Aujourd'hui, je suis vigilante. Je suis toujours en colère aussi, mais j'ai bon espoir. J'ai bon espoir que ça change. Et voilà, il y a une vraie solidarité entre les filles du milieu de la musique, même les autres musiciens qui prennent conscience. Alors, il y a toujours aussi des boys clubs. Hein, ça, c'est un peu regrettable. Mais est-ce que la situation a changé? Oui. Est-ce que c'est fini? Non. Sinon, tu ne me poserais pas la question.
Ah oui.
Tant qu'on demandera aux femmes si c'est différent d'être une femme dans le milieu de la musique, c'est qu'il y a un problème. Mais le milieu de la musique est à sa partie sombre comme absolument tout le milieu. Ça veut pas dire qu'il ne faut pas s'en préoccuper. Ça veut dire qu'il faut se préoccuper de tous les corps de métier, absolument tous. Ouais.
Ouais. Non, je te posais la question parce que souvent, je vois pas mal de groupes où les filles portent revendiquent le More Women on Stage, c'est écrit sur les instruments, et c'est un peu partout. Il y a cette espèce de volonté qui est plus, qui est plus grande parité, plus d'ouverture des scènes justement des artistes féminines. Ça, on sent qu'il y a un mouvement, il y a un mouvement de fond.
Oui, mais tant mieux. Ça a été une réaction, enfin ce mouvement est une réaction à une scène qui a longtemps ignoré les femmes, ou alors où elles ont été parquées dans des festivals pour les femmes. Mais à l'époque, c'était pas de l'empowerment comme maintenant. Même s'il y a des festivals comme les Femmes sans mêle où eux, ils ont été dans l'empowerment dès le départ, tu vois. Mais il y a une époque où c'était le seul accès qui était disponible. Mais ça change et tant mieux. Et maintenant, il faut la vigilance, aller à ce que l'égalité soit saine et sincère, et qu'on ne mette pas les... parce que le seul bémol, mais c'est vraiment... mais il faut continuer les efforts, mais il faut être juste vigilant des fois à ce qu'on ne mette pas les groupes avec des femmes ou des minorités, quelles qu'elles soient, juste à ce qu'on appelle en token pour que la soirée soit inclusive.
Oui.
Parce que souvent, les groupes avec des femmes ou toute autre minorité, on les met en ouverture.
Mmh.
Ouais. Voilà, donc, mais le temps viendra, ça va. Il faut saluer les efforts qui sont faits, mais que les efforts qui soient faits deviennent pas juste qu'on s'arrête pas au minimum requis, quoi. Voilà.
Ouais. Mais il faut rien lâcher, quoi.
Il faut rien lâcher, oui. C'est-à-dire que c'est bien, on c'est bien d'intégrer puis en plus c'est pas une question d'intégrer, c'est que la scène, elle est à tout le monde.
Ouais.
Donc on est juste en train de réclamer la part du gâteau à laquelle on a droit. On veut pas, je veux dire, personne ne veut tout le gâteau pour lui tout seul. On veut juste qu'on partage un gâteau. C'est comme ça que ça se passe dans les fêtes. Le but, c'est que tout le monde kiffe un peu, quoi. Donc voilà.
C'est clair. On va passer à quelques petites questions qui sont pas du tout des pièges. C'est un peu le côté interview express. Si tu veux garder qu'un seul album de toute ton immense collection de MP3, vinyle, CD, cassette, qu'est-ce que tu choisirais? Est-ce qu'il y a vraiment un album que tu penserais sauver, garder?
C'est-à-dire de créer l'album de quoi? De ma
Bernard, ouais, ta collection de perso, des choses qui t'ont inspiré vraiment. Est-ce qu'il y a un album ou plusieurs d'ailleurs qui ont été vraiment tes référents, des choses que tu écoutes, que tu réécoutes, qui sont un peu l'espèce de point d'ancrage auquel on revient toujours plus ou moins?
Oh là là, c'est tellement difficile. C'est tellement difficile. Je peux pas répondre à un seul album. C'est pas possible. facile. Hein.
Ouais.
J'ai, mais non, mais
quelques-uns,
non, je peux pas répondre.
Quelques-uns en vrac.
Ah, je sais pas, il y aurait Melancholy and the Infinite Sadness, Pornographie, The Cure, Doolittle, des Pixies, Teenage Angst, The Placebo aussi. Voilà, et beaucoup de musique classique également. Voilà. Je ne peux pas parler d'album, mais voilà. Donc, c'est dur hein, comme question hein, quand même. Hein.
Ouais, je n'ai que temps après.
Évidemment, Violator, musique hors de machine. Ah, je ne peux pas.
De la question, ça aurait traîné encore plus, la question encore plus horrible. Est-ce qu'il y a un. Tu as quelques titres là, quelques morceaux qui sont vraiment là, aussi tes. Je ne vais pas dire tes doudous, enfin les trucs auxquels on revient tout le temps. Qui sont voilà, espèce de morceaux qu'on écoute comme ça, hein, qui sont espèce de références absolues.
Ah non, c'est trop dur. Il faut prendre dans tous les albums, tu vois, exactement, et même plus encore, quoi. Donc c'est dur, c'est très dur. Non, je peux pas répondre à ça.
Ah, c'est vrai, en plus, comme tu as cité, les albums ils sont quand même très, enfin, genre Violator, une Pornographie, The Cure, qui sont quand même des albums quasi concept en fait. Hein. C'est, il n'y a pas grand chose à jeter, quoi.
Non, voilà.
C'est dur. Ouais. Est-ce qu'il y a des sons, des artistes, des musiques que tu écoutes et qui te plongent vraiment dans une. Qui te mettent complètement down, qui te plongent dans une espèce de tristesse, absolument insondable?
Moi, ce qui me plonge dans une tristesse insondable, ça va être les choses qui me ramènent à la nostalgie de mon enfance. Donc, je peux m'effondrer en écoutant Baby O' Mine, qui est la chanson de la maman de Dumbo, par exemple, tu vois.
Oh là, oui, effectivement.
Voilà. Voilà.
Oui. Une fois qu'on est côté bien down, est-ce qu'il y a des sons, des musiques, un titre, quelque chose que ça, voilà, qui te donne une pêche d'enfer, qui te rebooste complètement?
Ah oui, ça serait Night of Broken Glass de Jerry Tarn.
D'accord. Ah oui, c'est très. Ouais, c'est
ah oui.
Très énergétique. Hein.
Ah oui, ça, j'aurais pu le citer dans les. Dans les albums d'avant, des Ritter, des Lost Songs, beaucoup, c'est cette rage qu'il avait.
Ouais. Est-ce qu'il y a des titres, des artistes, justement, que tu as tellement écouté, que tu ne peux plus écouter, ou alors des sons, des choix musicaux sur lesquels tu fais un blocage complet?
Des artistes que je peux plus écouter, je sais pas, parce que je les écouterai pas de moi-même. Mm-hmm. Et puis quand je sais pas, l'algorithme de Spotify ou le hasard de la playlist me met un de ces artistes là, comme je suis quelqu'un de très nostalgique, et bien c'est une bonne surprise au final, quoi. Mm-hmm. Ça fait un retour en arrière et c'est la force de la musique. Donc je dirais non, j'ai pas de chansons que j'ai aimées que je ne peux plus écouter, je pense, parce que je crois que quand on aime, c'est rare de se cesser d'aimer. Et du coup, un style que je peux pas écouter, je suis curieuse de tous les styles, je pense, et je suis curieuse de nature, de manière générale, donc. Non, j'ai une volonté de me frotter à n'importe quel style pour voir. Et voilà.
Ouais. Quand tu as des goûts justement très, très éclectiques, hein, ce que je comprends, c'est qu'il y a quand même tu as des petits plaisirs coupables bien cachés dans ce que tu écoutes, le genre de truc que personne n'imagine que tu puisses écouter, ou alors quand t'es proche, en train d'écouter ça, tu dis « Oh mon Dieu !»
Je crois pas, parce que même la dance de, parce que la musique qui passait quand j'étais petite, 90, 2000, donc même ces choses-là, je les assume complètement. On a tous quelque chose de très léger. D'ailleurs, avant le live, faut un jour peut-être on publiera notre playlist d'avant live. C'est pas triste hein, ce qu'on passe hein, dedans. Hein. Et je trouve que chaque musique a son humeur et des fois on a besoin de légèreté. Voilà,
ouais. C'est ce que j'ai demandé. Ouais, c'est très chouette. Et là, on a cité un certain nombre d'artistes que tu aimes bien écouter, mais est-ce qu'il y en a vraiment un que tu placerais au sommet, ou un plusieurs que tu placerais au sommet de ton panthéon personnel?
Ah non. Non, je pourrais pas faire ça. Je pourrais pas faire ça, c'est comme une famille d'artistes, on aime tout le monde dans cette famille. C'est trop dur. Ils sont là pour différentes. Pareil, ils ont pas le même rôle. Ils sont là pour différentes émotions. Voilà. Différents modes, ouais.
Et sinon, tu as des livres cultes ou des films cultes ou des choses qui te hors musique qui t'inspirent, qui sont aussi tes points de référence?
Bien sûr, mais j'ai la même curiosité cinématographique que musicale, mais sans surprise, je pense que le cinéma de David Lynch me plaît énormément. Et j'aime les choses que tout bon gothique qui se respecte apprécie, telles que le cinéma de Tim Burton. J'aime beaucoup ce qui est horreur aussi, ça me plaît et j'aime beaucoup de choses. Oui, voilà, en film culte, ça ne surprendra personne si je dis Wild at Heart, donc dont le titre français c'est Laure et Lula. Et j'aime beaucoup, mais ça c'est le rapport à l'enfance aussi. J'aime beaucoup les films qui ressemblent à des cauchemars et je pense à La Cité des Enfants Perdus.
Oui, de Caro Jeunet.
Oui. Exactement, et j'aime beaucoup les animés japonais aussi.
Lula, merci pour cet échange. Donc, je rappelle le titre du troisième album de Vena Karma, Toxic Legends. Actuellement, tu es en tournée, il y a des...
Tout à fait. Je suis revenue hier de Charleville Média, j'ai une petite pause de 12 jours et ça reprend le 29 mars. Et d'ailleurs, le 29 mars, nous ouvrirons pour Whispering Suns, je suis très contente, à l'épicerie moderne, à Faisin.
D'accord. J'ai joué aussi dans un festival en Allemagne, tu as joué
Oui, c'est pour le mois de juin, au festival Live and Z, tout à fait. Et en avril, puisqu'on donne des dates comme ça, hein, c'est le thème, on met rien dans l'ordre. En avril, nous serons en Belgique également, on ouvrira pour Frustration. Le 12 avril à Arlon. Et nous ouvrirons également pour eux à Grenoble. Donc voilà. Et d'autres dates par-ci par-là. Mais ça, pour être au courant, il faut nous suivre sur les réseaux sociaux parce que je n'ai pas tout en tête.
Ouais, sur Instagram, Facebook.
Exactement.
Lula, merci beaucoup pour cet échange. Et à bientôt sur scène.
Volume sur 11, un podcast conçu et réalisé par Antoine Dubuquois. La musique du générique a été composée par Nezik. Pour plus d'informations, ou pour écouter les épisodes précédents, retrouvez-moi sur mon site, levolumesur11.com.